vous avez dit un jour qu'on ne se fait pas militant pour des individus épars, que c'est la rencontre d'un peuple qui vous a transformé en combattant, en militant, en volontaire. Au début, vous avez été prêtre de paroisse en 56 à la campagne, prêtre ouvrier aussi. Quand est-ce que vous avez rencontré vraiment le peuple du Quart-Monde ?
Quand j'étais, c'est pas sur les quais de la Fosse, là, hein, à Nantes, évidemment, et puis après au régiment, et puis ensuite... C'est sûr, quand j'étais à curé de campagne, il aurait semblé que je voyais que des individus, parce que je recevais des clochards, on faisait notre jardin, de jardin ensemble, et puis je leur disais, quand vous reviendrez, on mangera les légumes, ils auront poussé, bon, j'occupais aussi de ceux qu'on appelle la racaille dans le quartier, il y avait deux ou trois familles, tous ces gens ressemblaient, étaient toujours, n'est-ce pas, des gens d'un peuple. J'ai toujours eu, n'est-ce pas, le sentiment que chaque personne était témoin de quelque chose, que la vie qu'il portait, que cette vie qu'il vivait, était témoignage, hein, non pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Parce que moi, j'ai quand même eu cette chance absolument extraordinaire que le Seigneur m'a donnée, c'est qu'au fond, je n'ai jamais tellement cherché à faire des projets, ni à bâtir, n'est-ce pas ? J'ai toujours été très, très, très fidèle à écouter les événements et les personnes. Et ma foi, on m'appelait le prêtre de la racaille, ma foi, bon, ben... On a pu m'appeler autre chose, parce que j'étais quand même autre chose, j'étais quand même prêtre de Jésus-Christ. Quand je suis rentré dans le camp de Noisy-le-Grand...
Le camp de Noisy-le-Grand, c'était un des lieux où l'abbé Pierre avait construit des abris pour des familles très défavorisées, et vous y êtes allé un certain 14 juillet 56.
C'est ça, mon évêque m'a appelé un jour, il m'a dit, tu sais Joseph, on est vraiment conduit par le Seigneur, parce que cet évêque, il avait été mon curé à Angers. C'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de respect pour ma mère. Et cet évêque m'avait appris beaucoup. Il m'avait appris surtout le respect des pauvres. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai rencontré des gens d'une valeur absolument fantastique. Alors donc, mon évêque, je lui viens, hein, qui était le père Douillère, il me dit, écoute, Joseph, voilà, je t'ai fait venir parce que il y a un camp à Noisy-le-Grand, 252 familles, peut-être 300 d'ailleurs, en comptant les clandestines. Il y a plusieurs prêtres qui sont venus, ils n'ont pas pu y rester, les familles les ont chassés. Tu y vas, tu restes 6 mois, 1 an, et puis tu rentres dans le diocèse. Et alors là, bien sûr, quand je suis arrivé dans ce camp, c'était quasi désert, il y avait quelques hommes et quelques femmes, mais tout de suite, j'ai dit, mais ces gens qui sont là, ils n'en sortiront jamais. Ils n'en sortiront jamais, il faut que, et ça je fais la promesse, ils monteront les marches de l'ONU.
Ils monteront les marches de l'ONU.
Ils monteront les marches du Vatican. Ils seront, n'est-ce pas, acceptés et reconnus par tous.
Et c'est devenu une réalité.
Et c'est devenu une réalité. C'est pour ça que le mouvement est devenu un mouvement d'emblée. C'est le premier jour où j'ai mis les pieds à Noisy-le-Grand. Il est devenu un mouvement international.
Vous avez fondé là, très vite, le mouvement ATD, c'est-à-dire Aide à toute détresse.
Toutes ces mères de famille... et qui n'arrivent pas à joindre des deux bouts, ces enfants qui sont rejetés d'école, ces pères qui n'arrivent pas à travailler, ces gosses, hein, des jeunes qui sont comme moi quand j'étais jeune, qui font que des conneries. Hein. J'ai dit, écoutez, ces familles, eh bien, elles nous apprennent tellement, tellement, elles partagent tellement de détresse, on va s'appeler Aide à toute détresse. C'est comme ça que le nom il est venu. Mais tout de suite, ça a été la conscience que Dieu m'avait vraiment mis au cœur même de l'Église, puisqu'il m'avait mis au cœur même des pauvres. J'avais à partager désormais la vie d'un peuple de misère, de souffrance.
Est-ce que c'est vraiment un peuple ? Est-ce que c'est pas plutôt un conglomérat de gens à qui tout manque ? Qu'est-ce qui en fait un peuple ?
La conscience de l'injustice qui pèse sur eux et la force de vivre au-delà de la misère, de lutter sans cesse, en permanence contre la misère. C'est un peuple, bien sûr, qui vient de partout. Ils sont le petit reste de nos sociétés, qui sont témoins de l'infidélité à nos croyances, à nos conceptions, à nos idéaux, à notre démocratie, dirait-on, mais aussi à notre appartenance à l'Église. Au fond, ce peuple nous rappelle sans cesse, c'est là, n'est-ce pas, son message, que le Christ nous a demandé de tout quitter, et même jusqu'à la mort, pour que aucun homme ne soit perdu. Et surtout pas ceux auxquels il s'était identifié, qui l'ont porté, qui l'ont formé, qui l'ont façonné, qui ont fait de lui ce fils de Dieu, un fils d'homme. Faut pas oublier quand même que le message du Christ a été tout pétri, n'est-ce pas, de celui que lui ont transmis les pauvres. Il a porté le message des pauvres quand il nous a rappelé heureux les pauvres, c'était pas simplement heureux les pauvres qui sont loin de nous, mais qui font partie entièrement de notre propre humanité, de notre propre chair, qui sont nous-mêmes. Les pauvres étaient lui, et ils sont restés lui. Ce que vous ferez à plus petit, c'est à moi. Dans ce que quelqu'un aura faim qui vous donnerait du pain, ce sera moi qui serai nourri, ce sera moi qui serai à votre table, qui serai reçu, ce sera moi auquel vous pensez lorsque vous penserez à celui qui est en prison et que vous irez, n'est-ce pas, eh bien le voir pour le libérer, ou malade. Moi, je crois que c'est ça extraordinaire, au fond, que les pauvres nous ont appris, c'est que sans Jésus-Christ, ils n'ont rien à dire au monde. Ils n'ont à parler que d'injustice. Avec Jésus-Christ, ils peuvent parler d'amour et nous obliger à aimer.
Arrivé à Noisy, Père Joseph, que vous avez vu toutes ces détresses, toutes détresses, est-ce que vous n'avez pas été saisi par un sentiment d'incapacité? Qu'est-ce que vous pouviez faire? Vous n'aviez pas d'argent, vous n'aviez pas beaucoup de pouvoir.
Il y avait peut-être deux jours, j'étais là, trois jours, et puis j'étais assis regardant les gens passer pour essayer de comprendre un peu qui ils étaient, essayer, n'est-ce pas, de prendre à ma mémoire leur silhouette, leur visage, de façon à pouvoir les appeler par leur nom. Les enfants étaient un peu autour de moi, et puis Madame Escol, elle vient me voir, et puis elle s'assied à côté de moi.
Qui était Madame Escol?
Oh, c'était une femme de la misère, vous savez, qui avait eu 7-8 enfants, qu'on avait retirés. Son mari était un jeune homme qui ne faisait rien du tout. Son mari, son nouveau mari. Mais c'était des tellement braves gens. Et là, Madame Escol, elle vient là, elle s'assoit là, et puis elle me dit, j'ai de mes enfants, j'ai pas à manger, j'ai pas ceci. Puis elle se met à pleurer, et moi, j'avais pas un sou, j'avais rien. Puisque le soir, au fond, je mangeais ce que je pouvais, bien souvent, comme ça. Je dis, Madame, j'ai rien à vous donner, j'ai rien à vous donner, je vais pas vous donner ma soutane, quoi. Hein? Et alors, elle m'a regardé, et puis elle a vu que c'était vrai. Alors, elle s'est mise debout. Et puis elle a dit, venez voir un curé qui est complètement dingue, un con. Il n'a pas un sou. Et alors les gens se sont approchés, j'ai compris qu'au fond, c'était ma force, c'était d'être quand même prêtre au milieu d'un peuple. Et un prêtre qui ne prenait pas des attitudes particulières, ni. J'ai dû refuser d'être en civil au milieu de la misère, j'ai toujours été en soutane, toujours non pas parce que. J'étais réfractaire à ce point, à être en civil, mais parce que je sentais que les familles étaient tellement attachées à l'image de l'homme que j'étais, qui était prêtre. J'étais prêtre et prêtre d'une église dont certains faisaient partie. Du fait que j'étais prêtre, j'étais en soutane, certains pouvaient me dire non, pouvaient me rejeter. Et parfois, j'ai reçu des coups, des insultes. Mais ça faisait rien, j'étais prêtre, j'étais au milieu de cette famille. Ma parole, d'une certaine manière, reprenait celle du Christ. Heureux vous les pauvres, car ils verront Dieu, ils possèdent Dieu. Ils ont déjà, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, pratiquement, comme bien, comme ils sont absolument envahis de Dieu, que leur pauvreté est témoignage que l'œuvre de Dieu peut se faire si... ces pauvres crient non pas la haine, mais crient l'amour, forcent les hommes à s'aimer. La mission des pauvres, c'est d'obliger les hommes à s'aimer, à aller au-delà d'eux-mêmes. Il ne faut pas descendre dans la rue pour pouvoir, n'est-ce pas, et bien rester avec les gens de la rue, mais c'est pour les sortir de la rue. Eux qui ne sont pas des inférieurs, qui ne peuvent proclamer le droit à la justice, mais surtout le droit à l'amour, à la tendresse, à l'affection, au respect.
Vous ne croyez pas que par moment vous idéalisez un peu les pauvres?
Oh non, vous savez, quand vous voyez ce que les familles sont capables. Moi, je me vois encore ce vendredi saint. À l'époque, je faisais le chemin de croix dans les cités et tous les gens des cités venaient, chrétiens, pas chrétiens, croyants, pas croyants. Il y avait la foule, tout le monde venait de toute la cité, les gens venaient là. Alors on s'arrêtait On s'arrêtait, on revivait l'arrestation et on pensait à tous les gosses, à tous les gosses qui avaient été arrêtés dans la semaine, dans le mois, dans l'année. On voyait, n'est-ce pas, là, les gens à la fontaine qui se retrouvaient les uns et les autres, et dans ce camp où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait que quelques malheureuses fontaines, hein, où il n'y avait qu'un seul voiture closé pour près de 300 familles, hein. Eh bien là, on parlait. Hein. On parlait des difficultés chez l'épicier pour le payer. On parlait, n'est-ce pas, relativement de toutes les difficultés parce qu'on n'avait pas de travail. Et puis, on vivait le chemin de croix, comme ça, les années. Et puis, après, à la fin du chemin de croix, voilà, une femme qui vient me trouver. Et puis, qui me dit, mais j'ai compris ce soir que mon péché à moi, c'est d'avoir mis des enfants au monde qui seront des enfants de la misère.
Mais qu'est-ce que vous lui avez répondu?
Je n'ai rien répondu. On ne répond jamais à des choses comme ça. Vous savez, des choses comme ça, on ne peut faire que prier. Il y a des réponses qui ne peuvent être que des prières et des silences. Non, vous savez, les pauvres, je les idéalise pas, je les vis, et je dirais, ils me vivent, nous vivons. Ils sont tellement pleinement et totalement fils de Dieu et filles de Dieu. Ils répondent tellement aux normes de la charité, de l'amour, de la pitié, de la tendresse. Ils sont tellement besoin, tellement assoiffés, non. Non. Notre monde cherche des prétextes, comme pour ma mère. Votre gamin, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? D'ailleurs, pourquoi vous avez des enfants? Ils vont devenir des enfants de la misère. À quoi ça sert?
Vous le dites que le quart-monde, que la misère, ça se transmet de père en fils, de mère en fille, et que finalement, on n'en sort pas.
On n'en sort pas non pas parce qu'on ne veut pas en sortir. On n'en sort pas parce que, au fond, à ceux qui ont pauvres, on donne peu. Et le Christ a même dit à ceux qui n'ont rien, on enlevera encore le rien qu'ils ont. Le monde, n'est-ce pas, on dirait qu'il a peur que les gens qui sont dans la misère deviennent leurs égaux et donc revendiquent ce qu'ils désirent eux-mêmes pour leurs propres enfants. Nous voulions introduire, n'est-ce pas, l'ordinateur dans les quartiers pauvres. On me dit, mais ces gens-là, ils viendront aussi forts que nous, n'est-ce pas, ils enlèveront notre travail. Mais c'est ça notre monde, c'est ça notre monde d'aujourd'hui et de toujours. Et c'est pourquoi les pauvres ont une parole, n'est-ce pas, une parole à adresser au monde, à la terre. Ils ont à dire, n'est-ce pas, que la justice, n'est-ce pas, n'est pas un bien pour certains, n'est-ce pas, une faveur, que la justice est un droit, et que l'amour est qu'aimer, n'est-ce pas, c'est aussi, eh bien, un droit pour les pauvres comme pour les riches, que nous avons le devoir d'aimer, et donc par conséquent de partager, de se dépouiller les uns et les autres, hein, pour que d'autres puissent grandir, puissent avancer, puissent aller devant vous, hein, aller devant vous parce que vous, vous avez accepté de vous mettre derrière et d'écouter, de comprendre et d'aimer. Je ne suis pas du tout, n'est-ce pas, une utopie. Je sais bien que les pauvres, eux aussi, n'est-ce pas, ils ont leur tort. Hein. Mais qui fait le plus grand tort à l'autre, n'est-ce pas, ceux qui maintiennent les pauvres dans une humanité tout entière, inutile, sans avoir de possibilité de servir. Toutes ces intelligences gâchées. Tous ces cœurs à qui est-ce qu'on a arraché l'amour, toutes ces personnes, tous ces fils de Dieu qui ne peuvent plus prier parce que ils disent, mais si Dieu, n'est-ce pas, existe, ce serait pire encore. Si Dieu existait, ce serait pire encore.
Depuis 1960, vous avez autour de vous des volontaires, plus de 300, je crois, actuellement. Qui sont-ils? Comment sont-ils venus?
Parce que, vous savez, l'amour est contagieux. Quand on aime vraiment, eh bien, on ne peut pas ne pas trouver d'autres gens à aimer. On n'aime jamais seul. C'est sûr que les familles, au fond, dès le point de départ, nous ont aimés. Et ça était tellement que nous étions tellement sincères. Parce que je dis bien nous, parce qu'au fond, moi, je n'ai rien fait seul. C'était ma chance. Je n'ai jamais rien fait seul. J'étais héritier de gens comme l'abbé Godin, comme le père de Pierre, comme l'abbé Pierre, de Peggy. J'étais au fond celui qui a eu la chance de rencontrer, n'est-ce pas, le Pierre Gerbaud, le moine Jossis, qui a eu la chance de rencontrer à travers sa vie toujours des hommes, mon évêque. J'ai eu la chance de rencontrer toujours une mère, surtout de ma vie, ma mère, une mère comme celle qui était la mienne. Je n'ai jamais rien fait seul et dès le point de départ, au fond, des jeunes sont restés avec moi. Une Allemande, Erika, est morte aujourd'hui d'un cancer, elle était toute sa vie dans le mouvement. Après cette rencontre, eh bien, sa vie a été complètement changée, transformée, c'était absolument extraordinaire. Après, ça a été Bernadette qui était athée, puis ça a été Anne-Marie qui est venu par hasard dans le camp de Noisy-le-Grand et s'est trompé. Elle ne parlait pas un mot de français, moi je ne comprenais pas non plus ce qu'elle disait, mais j'ai pas fait d'histoire, je lui ai dit, écoute, voilà votre lit, voilà votre pièce, hein, dans une espèce de baraque en bois, j'ai mis là-dedans, n'est-ce pas, qui était complètement, qui pullait de poudre, de puces et de tout autre chose, tout autre bestiole. Et puis j'ai dit, écoutez, vous commencez tout de suite, et je l'ai emmené dans une famille, et puis elle est restée là 3 ans, elle ne connaissait pas un mot de français. Elle avait un tel sourire, un tel dynamisme, mais que les gens, n'est-ce pas, la suivaient, elle prenait la vaisselle, elle avait souhaité nettoyer la maison, elle était... C'était absolument extraordinaire. Anne-Marie, c'était absolument fantastique, Anne-Marie Janssen. Et puis après, n'est-ce pas, ça a été Francine Delagorce, et puis ça a été Alvin DeVos van Steenwijk, et puis l'avantage de ça, c'est que c'était tous des gens qui n'étaient pas engagés, si vous voulez, déjà dans des œuvres. Ils étaient libres. Ils avaient rien dans les poches, mais ils avaient des cœurs tellement gonflés d'amour. Alors, on a vécu ensemble, et puis on ne s'est jamais dit on est volontaire ou pas volontaire. Je vois toujours, moi, Mme de Fosse, Van Sandra, qui arrive dans cette misère, elle qui était diplomate, elle me dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors je lui dis, écoutez, m'organiser un colloque à l'UNESCO. Tout étonné, elle me dit, mais un colloque à l'UNESCO, mais il y a toute cette misère, sinon, vous savez, les pauvres, leur cœur ne suffit pas. Il faut qu'ils atteignent aussi les intelligences. Il faut que nous fassions un institut de recherche. Non pas qu'on ne devait pas accompagner les familles, non pas qu'on ne devait pas vivre avec elles, non pas qu'on ne devait pas passer des nuits parfois auprès d'un enfant malade, non pas, n'est-ce pas, qu'on ne pouvait pas être auprès d'un homme, n'est-ce pas, qui venait de perdre son enfant et qui était là le soir à pleurer, n'est-ce pas, à 2 heures du matin et que vous rencontriez, non pas cela, non pas, n'est-ce pas, se mettre à faire des études, mais forcer les hommes, ceux qui ont les pouvoirs de la pensée, de l'intelligence, les pouvoirs politiques, les pouvoirs religieux, les forcer à connaître que la misère, n'est-ce pas, c'est pas une affaire de cœur, seulement de sentiment, mais que c'est aussi une affaire d'intelligence, une affaire de connaissance, hein, parce qu'on doit créer, n'est-ce pas, des politiques qui soient irréversibles, parce que la misère, c'est tellement intolérable que on doit vouloir absolument la détruire, mais pour la détruire, il faut la connaître. Et le drame de notre société, le drame du monde d'aujourd'hui, hein, comme il y a 30 ans, c'est qu'au fond, on ne connaît pas la misère. On ne connaît pas le nombre, c'est rien. On ne connaît pas ce que les gens peuvent vivre. On ne peut pas imaginer ce que c'est que de voir ces gosses rentrer, n'est-ce pas, de l'école, n'est-ce pas, pratiquement, sans avoir rien fait dans la journée, n'est-ce pas, parce qu'ils étaient malheureux, parce qu'on n'avait pas mangé en partant le matin, de voir un homme qui vient et qui se cache et qui fait semblant d'avoir été au travail, alors que depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, il ne travaille plus. Ça, vous savez, ça, on peut pas imaginer ça. Et c'est tant qu'on ne l'aura pas imaginé, tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, on ne s'engagera pas d'une façon absolument honnête, n'est-ce pas, pratiquement, pour lutter contre la misère. Je dis à Mme de Fosse, voilà ce que nous devons faire. Nous devons créer un institut de recherche. Et c'est peut-être là que qu'a commencé vraiment le volontariat. On ne s'est pas dit jamais on est des volontaires. C'est plus tard qu'on a commencé à réfléchir sur le volontariat. Je vous dis, voilà, la chance que le Seigneur m'a donnée, c'est que j'ai toujours cru que, au fond, sur mon chemin, il me mettrait les gens qu'il fallait, au moment qu'il fallait. Il me laisse aller jusqu'au bout du ravin, et lorsque je vais tomber, il me ragrippe, il me ressaisit, il me reprend, et puis il fait que quelqu'un est à côté de moi, et puis qu'il apporte la réponse et la solution que je cherchais. Que je n'ai pas m'angoisser de trouver, parce que je savais, et parce que je sais que le Seigneur, eh bien, me mettra au moment voulu les personnes qu'il faut.